Vous écoutez RTL.
Tout de suite, les bactéries font leur entrée dans le studio RTL de la curiosité. Bonjour Marc-André Solos.
Bonjour.
Vous n'êtes pas une bactérie. Vous êtes plusieurs bactéries.
Heureux de vous retrouver. Vous êtes comme nous tous le fruit du travail des bactéries, si j'ai bien compris. Vous êtes biologiste, spécialiste de botanique et de mycologie. On va définir le mot pour commencer. On aime bien commencer par des définitions. C'est quoi une bactérie, tout simplement?
Alors, deux choses. C'est petit, c'est très petit. C'est des toutes petites cellules séparées les unes des autres, mais qui peuvent vivre en groupe. Et deuxièmement, c'est partout. Il y en a vraiment partout.
Alors, des chercheurs australiens ont découvert une bactérie qui résiste à presque tous les antibiotiques et qui se propage dans les hôpitaux. Sommes-nous concernés en France? Réponse dans un très court instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Lorsque l'organisme est infecté par des bactéries, il tente de se défendre grâce à son système immunitaire.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert que l'inverse est vrai également. Les bactéries sont devenues nos amis.
Sur RTL.
Une bactérie qui résiste à la plupart des antibiotiques et qui se propage aux hôpitaux du monde entier. Ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais c'est le signal d'alarme tiré par des chercheurs australiens le 3 septembre dernier dans la revue Nature. Notre invité, le biologiste Marc-André Solos, va nous expliquer ce phénomène. D'abord, les hôpitaux français, à votre connaissance, sont-ils touchés par cette bactérie dont parlent les Australiens, les chercheurs australiens?
Alors, il y a quelques chercheurs français dans les auteurs, hein, d'ailleurs, ouais. Et effectivement, il y a quelques hôpitaux français où on trouve cette bactérie. De toute façon, on la trouve dans plus de 80 établissements hospitaliers dans le monde entier. Mais il faut quand même se rassurer, c'est surtout quelque chose qui va être dangereux pour des gens affaiblis, des gens qui sont malades par ailleurs et dont le système immunitaire réagit moins bien.
Oui, mais là, on inquiète les gens qui sont malades, parce qu'il y en a beaucoup quand même aussi dans les hôpitaux.
Alors, effectivement, et de ce point de vue-là, il est bien de prendre conscience de ça. Cela dit, sa présence à cette bactérie n'est pas nouvelle. On a l'impression que ça fait entre 10 et 20 ans qu'elle se propage, et c'est pour ça qu'elle est aussi présente internationalement.
Mais elle ressemble à quoi? Parce qu'une bactérie, vous nous avez dit que c'était tout petit, une cellule qui se reproduit très vite. Cette bactérie dont on parle, citée dans la revue Nature le 3 septembre dernier, on l'a regardée, j'imagine, au microscope. Elle ressemble à quoi?
Je ne sais pas ce que font nos auditeurs, mais qui regardent leurs mains, là, s'ils peuvent, s'ils ont les mains libres.
On regarde tous nos mains.
Sur vos mains, là, vous en avez sans doute de cette bactérie-là une centaine de milliers. Alors, pas exactement la même variété que celle qui est résistante aux antibiotiques. Il s'agit d'un staphylocoque de la peau, qu'on appelle Staphylococcus epidermidis. Tout le monde en a.
D'accord.
Ça fait partie de ce qu'on a normalement sur la peau.
Mais il y en a un qui a muté et qui est devenu résistant aux antibiotiques,
exactement.
C'est ça?
Exactement, et il a muté plusieurs fois et il a acquis plusieurs résistances et il est résistant à tous les antibiotiques développés, attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres antibiotiques qui ne sont pas en phase finale de test, qui sont en cours de mise au point ou qui existent sans qu'on les connaisse, qui ne seraient pas efficaces. Mais néanmoins, effectivement, ça pose des problèmes pour des patients très affaiblis et qui attrapent ça, parce que quand ils se font une blessure, la bactérie rentre dans la blessure, donc dans l'organisme. Normalement, ce n'est pas un problème. Si vous êtes affaibli, eh bien, par contre, elle peut se multiplier, oui.
Comment elle vit, cette bactérie, Marc-André Solos? Comment elle se reproduit? Comment elle se duplique? Je ne sais même pas comment ça fonctionne.
Alors, c'est très simple. C'est très simple. Une bactérie, ça mange, ce qui traîne autour, ça grossit, et quand c'est devenu assez gros, ça se coupe en deux.
Et ça se fait vite, ça, cette reproduction?
Ça dépend des espèces, mais chez certaines espèces, ça prend 20 minutes. Dans d'autres, ça dépend aussi des conditions, parce que s'il n'y a pas beaucoup à manger, elle va avoir mettre du temps à grandir. Mais l'idée, c'est simplement, elle se divise en deux, récurremment, et ceci entre 20 minutes dans les meilleurs cas, quelques heures, voire quelques mois dans d'autres cas. Mais ça peut aller, la multiplication de bactéries, très vite. C'est ce qui se passe quand on attrape justement une bactérie qui se multiplie dans l'organisme sans qu'on l'extirpe. La population flambe en quelques temps, et puis on est complètement vide de bactéries, et on fait ce qu'on appelle une septicémie. On meurt d'une invasion bactérienne.
Alors, Marc-André Solos, vous comparez cette reproduction à une copie de fichier sur ordinateur. Pourquoi?
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la bactérie se divise en deux, il faut que ses gènes se soient auparavant recopiés, de façon à ce qu'il y ait une copie de ses gènes, de son génome, dans chacune des deux cellules qui va être faite. Les organismes, quand ils recopient, ils vérifient que la copie est fidèle. Mais quand ils se multiplient vite, ils ont moins le temps de vérifier. Donc ils font des erreurs. Et parmi ces erreurs, il y a des bonnes erreurs, si j'ose dire. Il y a par chance des fois des erreurs qui induisent un changement qui va rendre résistant un antibiotique, par exemple.
D'accord. Donc il y a une mutation.
Ça
s'appelle une mutation.
Exactement.
D'accord.
Marc-André Solos, vous publiez « Jamais seul, ces bactéries qui construisent les plantes, les animaux, les civilisations », c'est aux éditions Actes Sud. Bactéries et microbes, c'est la même chose? Ce sont des synonymes?
Microbes, c'est tous les organismes vivants qui sont très petits, qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour lesquels il faut un microscope. les bactéries font partie des microbes. Ce sont sans doute les plus divers des microbes, mais il y en a d'autres, comme des champignons, comme des virus.
Alors, toujours pour comprendre ce qui se passe avec cette histoire d'antibiotiques, de bactéries résistantes aux antibiotiques, faut peut-être expliquer tout simplement ce que sont les antibiotiques. Ça marche comment ?
Ben, les antibiotiques, c'est des choses que font les microbes, justement, pour se battre entre eux. Ce sont des toxines qui tuent les autres. Et ça leur permet de faire la place nette. Mmh. Autour d'eux. Et nos antibiotiques sont récupérés de champignons, comme le pénicillium, celui qu'on trouve sur le roquefort, ou de bactéries du sol, comme des actinomycètes, qui donnent notamment l'actinomycine, par exemple. Et donc, on réemploie ces toxines par lesquelles les champignons et les bactéries se font la guerre entre eux.
Ouais.
On les
dans la nature, à grande échelle. D'accord. Donc, on les a domestiqués pour faire un médicament. Donc, c'est comme un combat à l'intérieur de notre corps, c'est ça ?
Alors, effectivement, on se réapproprie les outils du combat entre les microbes, mais à très, très grande échelle. Un antibiotique qui utilise une poignée de microbes dans un sol, dans un coin inconnu, devient utilisé à l'échelle du globe entier. Et là, ça va sélectionner au cours du temps des résistances, c'est-à-dire des bactéries qui, par chance, ont une mutation qui leur permet d'éviter cet antibiotique. Et puis, bientôt, un autre antibiotique, puis un troisième, puis un quatrième. Et comme ce staphylocoque de la peau, pratiquement tous ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, vous allez nous expliquer dans le détail comment ces bactéries deviennent ultra résistantes. C'est un peu effrayant ce que vous nous décrivez, mais heureusement, vous l'avez déjà un peu évoqué, et on va rentrer dans le détail, il y a des solutions que le génie humain va peut-être inventer. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Et notre curiosité du jour, ce sont les bactéries. Grâce à notre invité, le biologiste Marc-André Selos, on les connaît mieux. On en a légèrement moins peur. Ces organismes vivants composés d'une seule cellule qui se reproduisent à toute vitesse. Alors des bactéries qui résistent aux antibiotiques et qui pourraient d'ailleurs aussi se propager dans les hôpitaux. C'est l'alerte donnée par des chercheurs australiens. C'était le 3 septembre dernier. Comment cette bactérie est devenue comme ça super résistante à ses ennemis, les antibiotiques ?
C'est à cause des antibiotiques, en fait. Je m'explique. Quand vous appliquez des antibiotiques, ça tue un peu toutes les bactéries qui traînent. Mmh. Si par hasard, il y a un mutant qui est résistant à cet antibiotique, bon, non seulement lui, il s'en fout de ce que vous lui imposez, hein, mais en plus, il est capable, il va avoir beaucoup plus de ressources puisqu'il n'a plus de compétiteurs.
Et oui, il est tout seul, donc il peut se nourrir de tout ce qui traîne.
Exactement.
Pour grandir plus vite.
Donc lui, d'accord, vous l'aidez. Et donc c'est comme ça que l'usage trop intense d'antibiotiques pas assez variés aboutit à la sélection de résistance. Et après, vos antibiotiques sont flambés.
Quand vous dites pas assez variés, ça veut dire quand on va voir le médecin, concrètement, faut pas qu'il nous donne toujours la même marque d'antibiotiques pour les mêmes maux ?
Oui, ou peut-être qu'à l'échelle d'une année sur l'autre, on n'utilise plus les mêmes. Du coup, ceux qui ont gagné grâce à leur résistance l'année N, l'année N plus 1, on les flingue avec un autre. Vous voyez ? Ou peut-être deux antibiotiques en même temps. C'est aussi une solution, parce que la probabilité de devenir résistant à deux antibiotiques, c'est le carré de la probabilité de devenir résistant à un antibiotique. Si vous me suivez, on a une chance sur un million de devenir résistant à un antibiotique, on a une chance sur un million de millions de devenir résistant à deux antibiotiques.
Mais c'est un enjeu mondial dont on parle, puisque vous nous dites qu'il y a quelques dizaines d'hôpitaux pour l'instant qui sont concernés par cet antibiotique résistant, cette bactérie résistante aux antibiotiques. Mais est-ce qu'il faudrait une coordination mondiale finalement ? Parce que le fait que les antibiotiques soient de moins en moins efficaces, c'est un problème de santé publique, pas seulement en France.
Mais c'est tout à fait exact. Et c'est vrai que dans la prescription des antibiotiques, les législations varient beaucoup. Or, on aurait besoin effectivement d'une stratégie globale. C'est une guerre. Beaucoup de bactéries sont inoffensives, mais quelques-unes peuvent nous poser des problèmes, c'est ce qu'on évoque aujourd'hui. Et face à elles, il faudrait une stratégie globale, c'est-à-dire utiliser, c'est ce que je disais à l'instant, 3-4 antibiotiques en même temps pendant quelques temps, puis ensuite arrêter de les utiliser et passer à d'autres, c'est-à-dire changer complètement la règle du jeu de qui va gagner.
Parce qu'on perturbe les bactéries résistantes quand on fait ça, c'est ça ?
Si vous êtes résistant à un antibiotique donné et que la fois d'après, c'est un autre antibiotique qui est là, vous êtes flingué.
Oui, mais Marc-André Selos, on est nombreux à avoir un médecin traitant. Est-ce que les médecins traitants ont votre connaissance et sont formés à l'utilisation divers antibiotiques, sincèrement ?
On ne va pas dire du mal des médecins.
On peut parler des lacunes et des choses à améliorer.
Non, ils ont par exemple des tests aujourd'hui qui permettent de détecter si une angine est due à des bactéries et si c'est la peine vraiment de faire une antibiothérapie. Le fait est que c'est vrai que dans leur formation, les médecins ne sont pas forcés à l'évolution. Or, ce dont je suis en train de vous parler, c'est prendre en compte l'évolution des microbes pour dresser devant eux des barrières qu'ils ne contourneront pas. Or, aujourd'hui, comme on n'étudie pas l'évolution, on prescrit des antibiotiques un peu n'importe comment, et du coup, on obtient des résistances qu'on ne veut pas, et nos antibiotiques ne peuvent plus servir. L'évolution d'information des médecins, c'est un enjeu urgent et malheureusement mal géré par les facultés de médecine.
Est-ce qu'on peut inventer, est-ce qu'on invente encore de nouveaux antibiotiques? Puisque ça, vous nous disiez tout à l'heure, peut-être qu'on est en train de trouver l'antibiotique qui va détruire cette bactérie ultra-résistante.
On manque d'antibiotiques parce qu'on a surtout manqué de recherche sur les antibiotiques. On a surtout utilisé ceux qui existaient. Oui. Et il y en a qui sont en cours de développement. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup parce que la recherche n'a pas assez entamé le processus très long de les identifier, de voir s'ils sont toxiques sur l'homme avant de les homologuer. Ce long processus, il y a quand même quelques antibiotiques dans le pipeline, si j'ose dire. Et puis, il y en a d'autres qui attendent. Mais là, il est temps de reprendre la recherche. Et c'est vrai que les groupes pharmaceutiques se sont plutôt concentrés sur l'utilisation des familles d'antibiotiques existants que sur la détection coûteuse de nouveaux antibiotiques.
Femmes et hommes, est-ce qu'on a les mêmes bactéries dans le corps? Est-ce que les antibiotiques sont mixtes ou pas?
Alors par rapport à ce qui se disait
tout
à l'heure...
Oui, on était sur la langue française.
Oui, sur les hommes et les femmes, les bactéries font moins la différence. Hein, de ce point de vue-là, elles sont assez égalitaires, malheureusement d'ailleurs pour nous. Par contre, au niveau du traitement, le traitement d'une femme qui n'a pas la même masse corporelle et pas exactement la même physiologie qu'un homme ne peut pas être le même. Or, souvent, les cohortes de patients sur lesquels on teste les médications en général, pas que les antibiotiques, sont plutôt masculines. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait peut-être avoir des tests différentiels sur qu'est-ce qui est bon et dans quelle prescription, dans quelle posologie, dans quelle quantité, pour qui.
On voit qu'il y a encore du boulot. Marc-André Sellos, vous publiez Jamais seul ces microbes qui construisent les plantes, les animaux, les civilisations. C'est aux éditions Actes Sud, les bactéries qui sont à la fois nos amis et nos ennemis. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant sur RTL.
Jusqu'à 15h, la curiosité est un vilain défaut.
Je me suis fait tout petit.
Pour arriver au micromètre à hauteur de bactéries, faisant de 1 à 2 micromètres de long.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je me suis fait tout petit.
Évidemment, toutes les bactéries ne font pas cette taille. Le bestiaire de ces créatures est incroyablement variée.
Sur RTL.
Tout petit comme les microbes, comme les bactéries, tout petit qui nous, c'est Brassens qui nous chantait ça évidemment. On est toujours avec le biologiste Marc-André Sellos pour découvrir cet univers des bactéries après ce que des chercheurs australiens et vous nous disiez aussi français ont publié dans la revue Nature, cette bactérie, ce staphylocoque ultra résistant aux antibiotiques et qui se propage dans les hôpitaux du monde entier. On essaye de pas être inutilement alarmiste. Vous nous avez donné un certain nombre de pistes de solutions. Il y en a une autre, ça s'appelle la phagothérapie. C'est quoi la phagothérapie?
Eh bien, c'est français.
Bravo, chouette.
C'est Félix Derel qui a découvert des maladies de bactéries, parce que les bactéries aussi ont des maladies. Hein.
Oui.
Elles ne sont pas que des agents de maladie, elles attrapent des virus. Et un virus, en gros, il fait exploser la cellule en libérant plein d'autres virus. Alors quand ça vous arrive avec la grippe, bon, vous n'êtes pas en forme, mais des cellules, vous en avez plein.
Oui.
Si vous êtes une bactérie faite d'une seule cellule, et que vous explosez en libérant plein de virus, eh ben vous êtes mort.
Donc la phagothérapie, c'est quoi? C'est trouver le virus qui va éliminer la bactérie?
La phagothérapie utilise des virus, ouais, qui infectent les bactéries, qui les font exploser et elles disparaissent. Alors,
Félix Derel, ça date de quand, ça?
1917. Il va découvrir ça et on va commencer à utiliser, avant même d'avoir compris que c'était des virus d'ailleurs, on va commencer, ouais, à utiliser ça un peu empiriquement, pour lutter contre des maladies. Ça va avoir son heure de gloire en Allemagne, dans les années 20, aux États-Unis, puis très rapidement, les antibiotiques arrivent. Et il n'y a finalement que du côté russe, et notamment en Géorgie, qu'on va garder cette méthode jusqu'à maintenant, mais partout ailleurs, les antibiotiques l'ont remplacée.
Et donc là, maintenant qu'on est confronté à cette difficulté, cet enjeu de santé publique avec des antibiotiques qui ont été trop donnés et donc des bactéries qui sont ultra résistantes, on pourrait réutiliser ces bactériophages, c'est ça, ces virus qui dévorent les bactéries?
Ou apprendre de ceux qui les utilisent encore,
ouais,
comment le faire. Et il y a le centre Iliava, à Tbilissi, en Géorgie,
ouais,
du nom d'ailleurs d'un chercheur qui a collaboré avec Félix Derel, qui s'occupe, qui soigne les gens par des thérapies à base de virus qui infectent les bactéries, donc des phagothérapies.
Mais comment on fait? On trouve le virus qui va tuer la bactérie une par
exact.
Une, c'est ça?
Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi les antibiotiques ont remplacé ça. L'antibiotique, il tape sur toutes les bactéries. Donc, vous avez une maladie à bactéries, on veut tuer les bactéries, on vous donne un antibiotique,
ouais,
et ça marche. Si vous voulez faire une phagothérapie, il faut trouver... connaître quelle est la bactérie qui vous infecte pour aller dans la collection de souches de virus de l'Institut chercher le virus qui convient. Ça prend un peu plus de temps, d'énergie, c'est plus coûteux. Mais quand on n'a pas le choix, ça continue d'être utilisé pour des patients qui ont des gros problèmes avec des bactéries qu'on n'arrive pas à éliminer par des antibiotiques. Et aujourd'hui, on voudrait rajouter ça, effectivement. Et il y a beaucoup d'instituts, de compagnies, de start-up en France qui commencent à essayer d'utiliser ça, hein, de développer ça. On voudrait rajouter ça à l'arsenal pour lutter contre les microbes. Mais attention, si on le fait sans stratégie, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, avec une vision d'ensemble de comment mettre un mur devant l'évolution des microbes, on n'y arrivera pas. On aura des résistances aux phages.
Marc-André Solos, on a envie d'en connaître plus sur nos bactéries. Vous nous avez dit qu'on en avait plein. Si on se regarde juste les mains, on en a des milliers, des milliers, des milliers. On en a combien sur nous, en tout, sur notre corps ?
Alors là, on passe aux bactéries, j'allais dire, bonne nouvelle ou inoffensive, et c'est le cas de la plupart. Effectivement, notre corps est plein de ces microbes qui sont présents, voire bénéfiques pour nous. Alors, nous en avons, sur la peau, par exemple, nous en avons 10 000 milliards. C'est énorme. Alors, ça ne prend pas beaucoup de place parce qu'elles sont toutes petites.
Mais elles sont toutes serrées les unes contre les autres,
non,
c'est ça ?
Non, pas tellement, non, non. Non, elles sont surtout dans les crevasses de la peau, dans les pores de la peau. Donc, je parle d'une peau correctement lavée. Hein.
Oui.
Dans notre tube digestif...
Je me suis lavé les dents ce matin, mais il m'en reste beaucoup dans la bouche. Des
ah oui, ça sans doute, oui.
Dans le tube digestif, c'est la fête.
Alors, en fait, c'est un peu plus en aval. C'est dans l'intestin que vous avez là, carrément... alors là, vous êtes plutôt à 100 000 milliards de bactéries dans le tube digestif. Et c'est pratiquement autant que vous avez de cellules.
Tout à l'heure, je donnais des chiffres quand on a fait le passage d'antenne avec,
Christelle
Robière. Et donc, j'étais en dessous de la réalité, en fait. Il me manquait un zéro, je crois.
Mais en fait, on a autant de bactéries dans notre organisme que de cellules, d'hommes. D'accord. Mais elles sont plus petites, donc ça prend moins de place.
Et dans un instant, vous allez nous expliquer sur RTL pourquoi elles sont aussi nos amies. On a envie d'avoir de nouveaux amis. À tout de suite.
C'est un monde un peu étrange, insoupçonné. Jusqu'à 15h, d'inquiétantes et innombrables créatures peuplent cet univers. Et cette planète, c'est vous. RTL.
100 000 milliards de bactéries.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec un extrait du tube des petits chanteurs à la gueule de bois, la bactérienne.
Les petits chanteurs à la gueule de bois, ça existe.
Quel genre de bactéries on a quand on a la gueule de bois, Marc-André Solos, vous êtes notre biologiste invité pour parler des bactéries.
Moi, je pense que ça ne doit pas faire du bien à toutes les bactéries.
On a parlé des bactéries ennemies, on l'a vu notamment avec cette info tombée le 3 septembre, une bactérie qui résiste à presque tous les antibiotiques et se propage dans les hôpitaux. Mais vous nous avez heureusement parlé aussi de ces bactéries amies. Quelles sont-elles ? Où sont-elles ?
Alors donc, elles sont sur la peau, elles sont dans le tube digestif, elles sont très abondantes aussi dans les cavités qui sont légèrement humides, le creux des oreilles par exemple, les narines. Donc il y a là tout un monde qui est un monde pour nous vraiment protecteur, qui nous aide à nous protéger parce qu'en occupant le terrain, elles excluent d'autres microbes qui sont peu souhaitables. Par exemple, nous sommes tous porteurs du staphylocoque doré, qui peut faire de très graves lésions, voire même des septicémies, c'est-à-dire envers l'organisme, mais la plupart du temps, ce staphylocoque doré se trouve face à un mur d'autres microbes qui sont également présents et qui l'empêchent de se développer.
Comment on en prend soin de nos bactéries, alors, par exemple, de toutes celles qui sont sur la peau ?
Ben, je veux dire, nous, on n'en prend pas soin.
Ah
on
oui
prend des savons bactéricides, on se lave trop souvent. Il faut se rappeler quand même que nos ancêtres, ils ont évolué sans douche. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter la douche, mais ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter les savons bactéricides.
On peut se contenter de se rincer, pas forcément utiliser à chaque fois savon, shampoing.
Voilà, il faut éviter tous les savons bactéricides. D'ailleurs, aux États-Unis, on a interdit le triclosan et le triclocarban, qui étaient des bactéricides qu'on rajoutait dans les savons.
Mais même à l'hôpital, on en utilise, je vois souvent les...
Avant de toucher une plaie,
dans les maternités, on en met sur ses mains avant
mais
de toucher...
Mais il faudrait les utiliser plus sélectivement. Il faudrait choisir les moments où on les retire de ses mains. Et en plus, nous mangeons propre. Nous lavons souvent les mains, donc nous ne portons plus à la bouche des aliments souillés. Nous sommes sous-diversifiés en microbes et aujourd'hui, on sait que cette sous-diversité par rapport à des populations qui ont gardé des pratiques non hygiénistes, cette sous-diversité entraîne des dysfonctionnements comme des maladies, les grandes maladies modernes qui sont en pleine émergence, dermatite atopique, autisme, obésité, tout ça a une partie. Une composante qui vient du fait que nous n'avons pas, au cours de notre enfance, les bons microbes et que nous développons, j'allais dire, de travers. Nous sommes sous-développés des microbes. Et ça illustre aussi le fait qu'on a besoin d'un minimum de microbes pour fonctionner bien.
Mais ça veut dire que sans les microbes, sans les bactéries, il n'y aurait pas eu de vie, tout simplement, sur Terre. Le point de départ de la vie, ce sont les bactéries.
De toute façon, elles ont commencé à être là bien avant nous. Ouais. La vie a commencé par des petites choses unicellulaires qui devaient beaucoup ressembler à des bactéries, oui. Mais effectivement, tout le reste du scénario repose aussi sur des microbes, et notamment sur des bactéries. Vous savez, vous et moi, on respire.
Oui, ça fait du bien.
On prend de l'air et l'oxygène de l'air nous permet en fait d'avoir de faire de l'énergie. D'ailleurs, si je vous bouche le nez, vous n'en avez pas pour très longtemps. Hein. Mais la respiration dans les cellules, ce sont des bactéries qui vivent dans nos cellules depuis des générations, qui sont devenues des composants ordinaires, qui respirent pour nous. Ça veut dire que tout un tas de choses qui se passent en nous normalement s'appuient sur des microbes et notamment sur des bactéries. Et vraiment, pour insister là-dessus, la bactérie, c'est comme le couteau, c'est comme l'énergie atomique. Ça peut être le pire et le meilleur. Il ne faut pas en avoir peur, mais il y a des mauvaises nouvelles qui se pointent des fois et il faut aussi avoir l'œil sur les risques.
Et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité dans la curiosité sur RTL. Une dernière petite info qui, moi, m'a vraiment surpris. On parle de la résistance des bactéries. C'est un cosmonaute de la Station Spatiale Internationale, cosmonaute russe. Qu'est-ce qu'il a découvert en faisant le tour de la Station Spatiale ?
Ils ont découvert dans un filtre une bactérie qu'on ne connaissait pas sur Terre, mais qui vient de la Terre, hein, qui a dû rentrer d'une façon ou d'une autre.
Et qui a survécu au voyage dans l'espace. Quoi.
Oui, mais elle a survécu dans la station. Il y a une autre information qu'on raconte moi, c'est qu'en gratouillant la surface de la station, ils ont trouvé aussi des bactéries. La surface qui est à l'extérieur et qui, elle, est exposée à des températures qui vont de moins 120 à 160 degrés, selon qu'on est au soleil ou pas, avec des radiations pas possibles. Et en fait, les bactéries survivent. Alors pas toutes, hein, mais comme elles sont par grande population, vous pouvez en tuer 999 sur 1000, il en reste une. Et moi, je vais vous donner un scoop. Hein. Je pense que la vie est arrivée sur Mars.
Allons bon.
Je n'ai pas de doute qu'il y a quand même une bactérie qui a survécu au nettoyage qu'on a infligé
au sonde qu'on
a envoyé là-bas. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. La NASA a découvert qu'il y a même des bactéries qui se nourrissent des détergents qu'on utilise pour nettoyer les sondes.
Et voilà, donc il y a des bactéries sur
Incroyable.
Mars et il y a de la vie sur Mars. Grâce à qui ? Grâce aux terriens. Merci beaucoup Marc-André Seloz. Vous publiez, je le rappelle, Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux, les civilisations, aux éditions Actes Sud.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.